à Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Abidjan, Conakry. Bonsoir, voici les titres. Au Mali, 6 morts dans une attaque contre le QG de la force du G5 Sahel. En Centrafrique, extradition sur Bangui d'un chef anti-Balaka et de ses hommes arrêtés en RDC. Au Bénin, retrait du droit de grève à des agents de l'État.
Ce qui ne les empêche pas, de temps à autre, de mener certaines actions concertées ou faire entendre leurs revendications avec notamment des reports d'audience.
Et ici, aux États-Unis, attaque hier contre un journal du Maryland. Le tireur ne coopère pas avec les enquêteurs. Et petite fleur de nostalgie africaine, le tout-puissant Ok Jazz est toujours là.
On se retrouve en face des situations où les défenseurs des droits humains, surtout, sont menacés, arrêtés.
Et sans oublier le journal de la Coupe et les huitièmes de finale, France, Argentine et Portugal et Uruguay qui se préparent. Mais tout d'abord, le journal. Attaque contre le poste de commandement du G5 Sahel à Sévaré. Le bilan fait état d'au moins 6 morts, 2 assaillants et 2 soldats. Une grande partie du bâtiment a été endommagée lors de cette attaque. Les dernières infos avec Kassim Traoré, correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Tout a commencé après la prière du vendredi. Un kamikaze à bord d'un véhicule peint aux couleurs des Nations Unies s'est explosé devant le poste de commandement du G5 Sahel à Sévaré. La déflagration a été très forte. Les populations de Sévaré se sont couchées dans leurs maisons, plus précisément dans le quartier de Bamakura, car les échanges de tirs étaient intenses. Après l'attaque, il y a eu 4 morts. 2 du côté des militaires et 2 côté assaillants. Nous avons demandé au commandement du G5 Sahel sur place. Il dit que son effectif est au complet et à part les 2 morts, il n'y a pas d'autres absents, nous a confié le général Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti. Sous les décombres, on ne sait pas s'il y a d'autres morts, mais pour le moment, nous enregistrons 4 morts, dont 2 militaires, 2 assaillants, dont les kamikazes, nous a confirmé le gouverneur de la région de Mopti. Il reconnaît au moins qu'il y a eu une confusion sur le nombre, sans quoi il n'y a que 4 morts au total. La zone restera bloquée et l'armée va continuer son ratissage. Déjà, nous avons arrêté 4 suspects suite à cette attaque et ils seront remis à la gendarmerie, souligne le gouverneur, qui d'ailleurs affirme que les dispositions actuelles autour du poste du G5 Sahel vont demeurer jusqu'à l'aube. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et toujours au Mali, une quinzaine de terroristes ont été neutralisés, c'est ce qu'a annoncé l'état-major français des armées, et ce lors d'un accrochage entre djihadistes et des soldats maliens et des éléments français de la force Barkhane au sud-est de Tombouctou. L'action a permis la saisie ou la destruction de nombreux matériels, dont 2 pick-up et 6 motos, des munitions et de l'armement lourd et léger. Et c'est dans ce contexte que les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale. En Centrafrique, un chef anti-Balaka et une trentaine de ses éléments extradés mercredi à Bangui, le général Pino Pino et sa bande avaient été arrêtés en mai dernier dans une petite commune du nord-est de la RDC, proche de la frontière centrafricaine. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Selon le parquet général de Bangui qui a confirmé l'extradition, le général Pino Pino et 37 de ses hommes sont arrivés mercredi aux environs de midi dans la capitale centrafricaine. Le chef anti-Balaka, cité dans de nombreuses exactions dans la région de Bangassou, s'était enfui mi-mai en République démocratique du Congo alors qu'il était pourchassé par une autre faction anti-Balaka à Bema pour assassinat de certains membres de son propre clan. Arrêté avec 37 de ses éléments le 15 mai 2018 par la police congolaise proche de la frontière centrafricaine, Pino Pino pourrait être un gros poisson pour la Cour pénale spéciale du fait de nombreux crimes dont il est reproché, pillage des ONG internationales, braquage, assassinat, attaque contre des casques bleus et association des malfaiteurs. L'homme qui a débuté son aventure guerrière à Damala, un quartier au nord de Bangui, Boali, Bakouma puis Bangassou, va désormais rejoindre dans les prisons centrafricaines ses anciens commandants Romaric et Afande. eux aussi arrêtés l'an dernier en République démocratique du Congo, puis extradés à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le procès de 5 militants pro-démocratie Filimbi s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Ils ont déjà passé 6 mois en détention, gardés au secret. Le procès avait été reporté au 11 juillet. Ces activistes de Filimbi sont poursuivis pour outrage à la personne du président Joseph Kabila. Les détails avec Thierry Kombundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Carbone Beni, Cédric Kalonji, Grace Tionza, Mino Momponi, Dixon Poutou et Palmer Kabea se sont présentés à la chambre foraine. Mais le tribunal n'a pas pu procéder à l'instruction, faute d'exploits de signification dans le dossier judiciaire, a dit à VOA Afrique Maître Jacquemin Chabani, l'avocat des activistes de Filimbi. Le tribunal s'est donc déclaré non saisi et a renvoyé l'affaire au 11 juillet prochain. Notez que cette audience s'est déroulée loin de la presse, non autorisée à accéder à la prison de Makala pour la couvrir. Arrêté depuis décembre 2017, puis transféré le 9 juin dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa pour publication et distribution des écrits, atteinte à la sûreté intérieure de l'État et participation criminelle, Carbone Beni et ses collègues risquent jusqu'à 3 ans de prison. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et par ailleurs, les États-Unis et l'Église congolaise, tout comme l'ONG Human Rights Watch, ont invité le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir comme prévu à l'issue des élections prévues en décembre, où le chef de l'État doit s'exprimer ce soir. La date de la présidentielle est connue à Madagascar. Le premier ministre malgache Christian Tsai a annoncé que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre prochain. Et si aucun candidat n'obtient la majorité absolue dès ce premier tour de scrutin, les électeurs seront convoqués pour un second tour le 19 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Capital Gazette, journal d'Annapolis dans l'État américain du Maryland, victime d'une attaque ayant fait 5 morts hier, a tenu à publier son édition de vendredi en laissant vide sa page d'éditoriaux. Le suspect, lui, ne coopère pas avec les enquêteurs. Nathalie Barge.
La fusillade est une attaque ciblée contre le Capital Gazette, selon la police locale, indiquant que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Le tireur a fait irruption jeudi après-midi dans la salle de rédaction armée d'un fusil. Il entretenait une relation conflictuelle avec le journal qu'il avait sans succès attaqué en diffamation. Jarod Ramos, 38 ans, a été inculpé de meurtre avec préméditation. Il devait être présenté devant un juge ce vendredi. Le suspect ne coopère pas beaucoup, a déclaré la police du comté d'Anne Arundel. Malgré le drame, les journalistes survivants ont tenu à publier un journal ce vendredi sur lequel ils ont travaillé hier à l'arrière de voiture sur un parking. La une du journal titre « 5 personnes abattues au Capital ».« Nous n'avons pas les mots », est-il écrit à la place des éditoriaux. Demain, cette page reviendra à son but originel, qui est de proposer à nos lecteurs des opinions informées, peut-on lire, sous le nom des 5 victimes, une employée du marketing et 4 journalistes.
L'OIM, l'agence de l'ONU pour les migrations, ne sera pas dirigée par un Américain. C'est une première en 50 ans. Le Portugais Antonio Vitorino, un ami proche du chef de l'ONU, Antonio Guterres, a été élu aujourd'hui à la tête de l'organisation et vainçant le candidat le président américain Donald Trump. Et en Libye, 3 bébés sont morts et 100 de personnes sont portées disparues, dont des femmes et des enfants, lors d'un naufrage au large des côtes libyennes. Seuls les corps de 3 bébés ont pu être repêchés. D'autres corps qui flottaient sur le lieu du naufrage n'ont pu être récupérés faute de moyens. C'est ce qu'a déploré un garde-côte. Quelques 120 migrants, en majorité africains, étaient à bord d'un canot au moment du drame. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Bonsoir à tous et bienvenue. Pas de match aujourd'hui, mais deux chocs demain pour les premiers matchs des huitièmes de finale. Tout commence à 14h, temps universel à Kazan avec le duel France-Argentine. Moins d'une semaine après l'humiliation contre la Croatie 3-0, les rumeurs de front dans le vestiaire, l'appel à l'Union sacrée et la qualification à l'arraché contre le Nigeria 2-1. Bien sûr, acquise avec notamment un but de Messi, les Argentins ont dopé leur morale. La France, souvent qualifiée d'équipe ennuyeuse dans cette Coupe du Monde, devra se réveiller face à Léo Messi et sa bande. Le coéquipier de la Pulga au FC Barcelone, Samuel Umtiti, en est conscient. Écoutons-le.
C'est très compliqué de l'arrêter, donc voilà, même si je le côtoie H24, voilà, il a des qualités hors normes. Après, voilà, on va essayer de l'arrêter comme on peut, mais encore, je répète, il n'y a pas que Léo Messi en Argentine. Il y a toute une attaque qui peut être performante, ou même des joueurs comme des milieux, comme Banega, qui délivre de bonnes passes, qui peut se projeter aussi, donc ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'excitation. On sait que ça va aller vite quand même. Jouer une équipe comme l'Argentine en huitième de finale, bah, c'est un match rêvé.
Après ce France-Argentine, un autre choc est attendu entre l'Uruguay de Luis Suarez et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Uruguayens ont fait carton plein en match de poule. 3 matchs, 3 victoires avec un dernier match explosif remporté 3-0 devant le pays hôte, la Russie. De son côté, le Portugal pourra compter sur sa star CR7, auteur de 4 buts dans ce mondial. France-Argentine et Uruguay-Portugal, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Longtemps considéré comme un prince sans couronne, eu égard à la richesse de son football mal recombattu au niveau de l'équipe nationale, le Portugal vient tout juste de remettre les pendules à l'heure en gagnant l'Euro en France. Le vivier portugais, ce Brésil d'Europe, a toujours été un grand producteur de footballeurs hors normes, dont les plus prestigieux sont Eusébio da Silva, le principal rival de Pelé dans les années 60, et Cristiano Ronaldo, qui discute actuellement à Léo Messi le titre de meilleur joueur du monde. La curiosité de cette grande nation de football est de présenter un double visage, car le jeu de son équipe nationale a souvent été tiraillé entre deux extrêmes. Il y a d'abord eu plus fréquemment la production de ce beau jeu latin, à l'image des clubs spectaculaires de Benfica, Porto et du Sporting qui alimentent la Seleção. Ses plus dignes représentants furent le Portugal de Chalana et de Figo, qui ne passèrent pas le cap des demi-finales dans les compétitions continentales des années 80 et 2000. Faute de trophées, l'autre Portugal a pris le dessus. Celui de l'actuel sélectionneur Fernando Santos, qui a fait le choix de la patience, de la tactique et du réalisme, profitant à fond des qualités exceptionnelles d'animation et surtout de finition de la superstar Cristiano Ronaldo. C'est celui-là qui vient de gagner la Coupe d'Europe. C'est donc ce deuxième Portugal, en plus expérimenté, qui nous est servi en Russie, où l'enjeu individuel est capital également pour les deux frères ennemis, Cristiano et Messi, impatients d'en découdre, même par personne interposée. Le deuxième huitième de finale joué à Sochi donne l'occasion à Ronaldo d'imposer sa loi à une impressionnante équipe d'Uruguay, dont le leader d'attaque est Suarez, le lieutenant barcelonais de Messi. Alors, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, disait le loup à l'agneau. Le dénouement de ce match sera-t-il le même que celui de la fable? Rendez-vous samedi.
On revient bien évidemment sur la grande désillusion pour le Sénégal et l'Afrique hier. Les Lions de la Teranga ont été éliminés après une défaite 1-0 face à la Colombie. Un pénalty refusé pour le Sénégal en première mi-temps aura été le tournant du match. Le Sénégal est out malgré la défaite du Japon 1-0 face à la Pologne. À égalité de points, 4 et de goal à verrage, c'est le critère du fair play qui a départagé Sénégalais et Japonais. La différence de carton jaune 6 côté Sénégalais et 4 pour le Japon a permis aux Nippons de se qualifier. Écoutons la grande déception d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse.
C'est à l'heure du sport. Aujourd'hui, je suis fier de mes garçons. Je suis fier du travail qu'ils ont accompli depuis un mois. Et aujourd'hui, le Sénégal ne se qualifie pas parce qu'il ne le mérite pas. Et c'est pas la vie. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, il y a des règles qui ont été établies par la FIFA. Donc, il faut se plier à ça. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être être éliminé d'une autre façon.
Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. L'Afrique a fini son mondial 2018 moins bien qu'en 2014 où elle avait réussi à placer deux équipes, le Nigeria et l'Algérie, en huitième de finale. C'est aussi la première fois qu'aucune équipe africaine n'arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale depuis 1982. C'est ici que s'achève ce journal du mondial.
Et vous l'aurez reconnu, c'était Yacouba Ouédraogo pour le journal de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Raïssa Girondin, toujours avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Situation inédite au Bénin. La nouvelle cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djobenou retire à certains fonctionnaires le droit de grève. Il y a quelques mois, la précédente cour constitutionnelle avait plutôt suggéré un encadrement du droit de grève des fonctionnaires. Le point avec Ginette Fleur-Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Le verdict est prononcé suite à une requête en date du 20 mai 2018 dans laquelle les requérants ont saisi la haute juridiction en vue d'une interprétation de certaines décisions de la Cour datant de janvier 2018 rendue au motif essentiel selon lequel seul le constituant peut interdire l'action syndicale et le droit de grève, le législateur n'étant habilité qu'à encadrer leur exercice. Après analyse, la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djobenou prononce la phrase que les travailleurs redoutaient. Le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux forces de sécurité est bel et bien conforme à la Constitution. Pourtant, l'équipe précédente de la Cour avait réglé la question. La réaction de l'Union nationale des magistrats du Bénin ne s'est pas fait attendre. Elle dénonce une violation et une atteinte à leur liberté.
En clair, le magistrat, acteur central du pouvoir judiciaire, sera soumis dans son office au diktat de l'exécutif et toute résistance de sa part l'expose à des sanctions disciplinaires automatiques. C'est à ce plan d'une justice aux ordres, incapable de s'insurger et contrainte de se déployer contre les indésirables de la République qui est savamment mis en œuvre avec le concours et la bénédiction des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle.
Pour Maître Tato Atita, la question du retrait du droit de grève se pose avec acuité depuis 1958. Les travailleurs des secteurs cités en sont conscients, même s'ils l'ont toujours combattu.
Elle interdit toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Les magistrats, comme certains fonctionnaires, se voient donc privés de cette liberté publique à valeur constitutionnelle qu'est le droit de grève, ce qui ne les empêche pas, de temps à autre, de mener certaines actions concertées pour faire entendre leurs revendications avec notamment des reports d'audience.
Beaucoup s'étonnent que le président de la Cour constitutionnelle, au lieu de donner du poids à tous les combats auxquels il avait milité, vêtu du costume de membre de la société civile, en vient aujourd'hui à les combattre.
Si hier, M. Djobenou a marché aux côtés des autres acteurs de la justice pour dire non, président Yahi, à ce qu'il retire le droit de grève, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il serait en tête d'une initiative qui va vouloir retirer le droit de grève au personnel de la justice.
Les décisions de la Cour sont sans recours et s'imposent à tous. Pour le moment, les agents concernés se réservent le droit de se prononcer, même si certains pensent qu'il ne faudrait rien attendre de juridiquement correct de cette Cour qui a à sa tête un bras droit du président de la République. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Et les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent dimanche à Nouakchott, en Mauritanie, pour le 31e sommet ordinaire de l'institution. Les principaux enjeux tournent autour du renforcement de l'intégration continentale, un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Une quarantaine de chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron sont attendus dans la capitale mauritanienne. Yacouba Ouédraogo a joint Reid Brody, conseiller à l'ONG Human Rights Watch, présentez-moi à Nouakchott.
Le sommet est intitulé « Contre la corruption ». C'est évidemment qu'il y a un fléau qui gangrène tout le continent, mais bon, on va voir s'il en sort des mesures concrètes contre la corruption. C'est aussi les enjeux de la guerre et de la paix du continent.
On sait que le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a entrepris une réforme de l'institution. Il parle notamment d'accélérer le processus de décision au sein de l'Union africaine et de s'assurer que les résolutions prises soient appliquées. Est-ce que déjà on peut dire qu'il est sur la bonne voie?
Évidemment, c'est la bonne voie. Si l'Union africaine a la vocation d'être une instance de prise de décision, il faut être aussi une instance d'application de ces décisions. Je pensais à Alpha Condé. Quand il a démissionné de la présidence de la commission, il s'était plaint qu'on prend des décisions mais qu'on ne les applique pas. Donc il faudrait que ces décisions soient appliquées pour que l'Union africaine ait un sens.
L'un des enjeux de ce sommet-là, c'est la question du Sahara occidental. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, doit présenter un rapport très attendu sur le Sahara occidental. Est-ce qu'il faut s'attendre déjà à ce que ce conflit-là est quand même un début de solutionnement?
Mais ça fait des décennies maintenant que le peuple sahraoui vit dans l'incertitude, vit dans une situation où ses droits sont bafoués, où on parle de moins en moins non seulement de la question de souveraineté, mais la question des droits humains du peuple sahraoui. Ça fait des décennies qu'on espère et qu'on ne voit pas les résultats.
Le président français Emmanuel Macron est attendu à ce sommet-là. Aucune intervention de sa part n'est inscrite à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on attendrait, par exemple, de la France à ce sommet-là?
La France, c'est un pays que parmi d'autres, on n'attend pas de lui qu'il soit le centre d'attention de ce sommet. C'est un sommet quand même de l'Union africaine. Il va avoir un déjeuner de travail avec les membres. C'est déjà un grand honneur pour lui. C'est la première fois qu'un président français en exercice se rend en Mauritanie. Et bien, il dit que le parti au pouvoir va tirer un profit politique de cette visite. Alors nous, ce qu'on attend, c'est qu'il démontre de façon concrète l'attachement de la France à la liberté d'expression et qu'il en parle à son homologue Mohamed Abdelaziz. Il va venir pour parler de la lutte contre le terrorisme au Sahel, qui est une priorité pour le président Macron et pour tout le monde. Mais en même temps, il faudrait qu'il parle des droits humains en Mauritanie.
C'est Éric Brody, le conseiller à l'ONG Human Rights Watch, présentez-moi un workshop.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et au Congo-Brazzaville, les acteurs de la société civile dénoncent de multiples pressions. Ils pointent du doigt la police et les autorités administratives. Certains sont arrêtés tandis que d'autres se voient interdire la tenue de réunion. À Brazzaville, les explications de notre correspondant Arsène Séverin.
Les organisations de la société civile nourrissent des craintes depuis la période post-électorale, redoutant parfois la réduction de leur espace d'expression, un climat qui ne permet pas à certaines ONG de fonctionner normalement. C'est ce que décrit ici Roch Elogunzobo du Cercle pour les droits de l'homme et le développement.
Surtout depuis le référendum, depuis le changement de la constitution, nous sommes en face d'une machine non seulement de répression mais aussi de musulmans. Le gouvernement veut faire taire la société civile avec notamment les interdictions des réunions, même des réunions dans les salles. Et on se retrouve en face des situations où les défenseurs des droits humains, surtout, sont menacés, arrêtés. Ça a commencé avec les syndicalistes de l'université qui ont été arrêtés, certains torturés. Ensuite, nous avons eu des interdictions des réunions, des séminaires à Pointe-Noire.
Arrêté en début mai, alors que s'ouvrait à Brazzaville le procès du général Mokoko, le coordonnateur national du mouvement, le ras-le-bol Franck Dilamalembe, dit ne pas être diminué par son emprisonnement.
Si les autorités ont voulu que cette maison d'arrêt soit pour nous un lieu où on aurait peut-être abandonné notre combat, non, c'est tout le contraire. Tous les prisonniers étaient avec nous, tous les prisonniers nous ont encouragés à continuer notre combat parce que le combat reste le même, ce n'est pas un combat contre une personne, c'est un combat contre un système et le mouvement ras-le-bol continue et continuera à militer pour plus de justice sociale.
Les plaintes des ONG ne sont toujours pas comprises par certains juristes qui prêchent le respect de la législation. Trop de liberté tue la liberté, affirme le juriste Christian Bouanga.
Je pense que l'officier de police judiciaire qui procède aux arrestations connaît la loi. Donc une arrestation est une présomption, n'est-ce pas, de la commission par la personne qui en est l'objet d'une infraction. Il n'y a pas de discrédit a priori à jeter sur tout acte posé par l'autorité publique en République du Congo. Non, nous sommes dans un état organisé, il y a des lois que les gens respectent. Alors, ceux qui pensent que le Congo est une poubelle, moi je les invite, n'est-ce pas, à prendre une autre nationalité.
Le Premier ministre Clément Mwamba a accepté d'ouvrir une discussion avec ces ONG, notamment dans le cadre du processus ITUE, où la contribution de la société civile est toujours très attendue. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
et direction la République démocratique du Congo pour revivre le temps de quelques accords, ce qui reste de ce qui fut l'un des groupes de musique les plus populaires des décennies 60 à 80. Créé par Jean-Serge Sou et François Luombo Makiadi, alias Franco, le tout-puissant OK Jazz n'a pas perdu son âme. John Lyndon, notre envoyé spécial à Kinshasa, a assisté à l'une des répétitions du groupe. Voici son reportage.
Le grand maître s'en est allé et pourtant, ici à quelques pas de cette place qui n'a rien perdu de son histoire, Franco reste vivant à travers le tout-puissant OK Jazz, un orchestre qu'il a co-créé en 1956. Pendant les années 60, 70 et 80, Franco et son groupe ont fait vibrer la scène musicale congolaise et africaine, voire internationale, avec des titres légendaires, parmi lesquels Locataire. Des sonorités qui aujourd'hui encore font danser toutes les générations. Un héritage musical qui a pu être préservé grâce à certains acteurs. Dawasson, directeur artistique du tout-puissant OK Jazz, explique.
D'abord, au départ, OK Jazz, c'est le patrimoine national. Quand Franco est décédé, nous sommes convenus avec des amis de ne pas laisser cette œuvre comme ça partir comme ça. C'est le monde qui est mort, mais nous sommes là pour remonter l'orchestre OK Jazz.
Manzenza a été manager de Franco de 1972 et jusqu'à sa mort en 1989. C'est à lui qu'il revenait la tâche de négocier tous les contrats à travers le monde. Il s'occupait également des Visa 80, le bureau phonographique de Franco à Bruxelles. 29 ans après la disparition de Franco, il n'a pas oublié qui il était.
Franco, il était auteur-compositeur, parolier, mais en plus de ça, c'était un grand arrangeur, ça, du côté musique. Mais du côté humain, Franco, c'était un blagueur. Franco, c'était un humoriste. Franco, il savait conduire son orchestre, ses hommes.
Eh bien, Franco est mort, mais vive Franco à travers le tout-puissant OK Jazz. Et quoi de plus normal que ce déferlement de sonorités musicales à la sauce rumba congolaise, auquel tous ceux qui définissent ici ont droit, nous n'avons pas échappé à la règle. John Lyndon, VOA Afrique, Kinshasa.
Oh Mario, Luka kamwati moko bala. Mario musalo de kulinga pa mama mobokoli. Basuka yote. Ah,
lelo makambo lobi makambo na lembie e. Lelo bitumba lobi koso na e na baye e. Na boyi ko baby sandoto na matanga na lembie e. Mario.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Sidrak Franklin, Païssa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. On se laisse sur la chanson Mario. Excellente suite de programme.
Famille Mario Batani Saka, Mario a fait sa canne à Motoro, son canne à Motona la Lisaka et la Lisaka et la Lisaka. Mario, la Lémie, Bima Bima Nanda, ton âme Mario, Ponanini, Yongo et Apolito,
et Pétena la Soua, et pas Isoua et l'Okuta, et pas Isoua et Abilokoi. Kutakina na yandoi, ikambo mokemo sarako voma biloko yanda.